Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Bicentenaire de la naissance d'Hölderlin. Avec Pierre Berthaud, germaniste, auteur de Hölderlin, un essai de biographie intérieure. En effet, Hölderlin est né en 1770 à Laufen, en Bade-Württemberg. Il est mort en 1843 à Tübingen. Pierre Berthaud s'est consacré à l'étude du poète, un homme du XVIIIe siècle, aimant Jean-Jacques Rousseau, pratiquant la philosophie, à l'aise dans la pensée et le rationnel, attaché à repenser le tragique grec que même les romantiques d'envergure en Allemagne n'avaient pas compris. Hölderlin a été aussi un poète de métier. Il construisait, il calculait ses poèmes comme un architecte. Pierre Berthaud analyse un poème de 330 vers intitulé « Patmos » en nous montrant qu'il y a à l'intérieur, au 114e vers, un plan de symétrie. Patmos est un rêve éveillé. Le poète, enlevé dans les airs par un génie, survole l'Asie, ses fleuves, ses fleurs, ses dômes. Il atterrit à Patmos, où Jean a écrit son témoignage. Là, il revit, comme dans l'esprit du disciple Jean, l'anamnèse des événements. Le plan de symétrie révèle ceci. Les rayons du soleil, le jour lui-même les brisa, quand le Christ rendit l'âme au Golgotha. Cette brisure n'est pas une fin, c'est un deuil qui précède un renouveau. Les disciples seront, ces rayons, brisés et recréés. Ils vont passer de l'amour du Seigneur, du besoin de sa présence, de sa chaleur, à l'étape intellectuelle. Ils vont devenir capables de parler eux-mêmes ce qui leur a été enseigné.
Je n'ai plus rien que je puisse dire à moi. Mes bien-aimés sont au loin et morts. Il n'est pas un souffle qui me parle d'eux. Mon commerce en ce monde est fini. Je me suis mis à l'ouvrage avec zèle, j'ai saigné sur ma tâche, et je n'ai pas enrichi d'un liard l'univers. Je rentre sans nulle gloire et seul dans ma patrie, condamné à y errer comme dans un immense cimetière, où ne m'attend plus peut-être que le couteau du chasseur, pour qui nous autres Grecs sommes une proie aussi tentante que le gibier des forêts. Pourtant tu brilles encore, soleil du ciel. Terre sacrée, tu ne cesses point de verdir. Les fleuves courent encore à la mer, et les arbres qui donnent l'ombre murmurent toujours à midi. La cantilène du printemps berce mes mortelles pensées, et la plénitude du monde vivant revient enivrer ma détresse. Bienheureuse nature, ce que je ressens quand je lève les yeux sur ta beauté, je ne saurais le dire, mais tout le bonheur du ciel habite les larmes que je pleure devant toi, la mieux aimée. Tout mon être se tait pour écouter les tendres vagues de l'air jouer autour de mon corps. Perdu dans le bleu immense, souvent je lève les yeux vers les terres, ou je les abaisse sur la mer sacrée. Il me semble qu'un esprit fraternel m'ouvre les bras, que la souffrance de la solitude se dissout dans la vie divine. Mais qu'est-ce que la vie divine, le ciel de l'homme, sinon de ne faire qu'un avec toute chose, ne faire qu'un avec toute chose vivante? Retourner par un radieux oubli de soi dans le tout de la nature. Tel est le plus haut degré de la pensée et de la joie. la cime sacrée. Le lieu du calme éternel où midi perce à tout faire, le tonnerre sa voix, où le bouillonnement de la mer se confond avec la houle des blés. Ne faire qu'un avec toute chose vivante. À ces mots, la vertu regrette sa sévère armure, l'esprit de l'homme son sceptre. Toute pensée fonde devant l'image du monde éternellement un, comme les règles de l'artiste acharné devant son Uranie. La dure fatalité abdique, la mort quitte le cercle des créatures et le monde, guéri de la séparation et du vieillissement, rayonne d'une beauté accrue. Si je foule souvent ces hauteurs, Bellarmin, il suffit d'un instant de réflexion pour m'en précipiter. Je médite et je me retrouve seul comme avant, au milieu des tourments de la condition mortelle. L'asile de mon cœur, le monde éternellement un, se dérobe. La nature me refuse ses bras et je suis en face d'elle comme un étranger incapable de la comprendre.
Pierre Berthaud, au cours de la précédente émission, celle qui a été diffusée le mois dernier et qui était comme celle-ci consacrée à Hölderlin, vous avez mis en évidence le fait que les traductions d'Hölderlin ne sont pas satisfaisantes. Est-ce que toutefois, à votre connaissance, il y en a qui se rapprochent de ce que l'on pourrait souhaiter ?
Eh bien, j'avoue, non. Il n'y a, à mon avis, pas une seule traduction de Hölderlin qui me donne quelque satisfaction que ce soit. Ce n'est pas extraordinaire, la poésie est une chose totalement intraduisible, surtout ce qui est poétique dans la poésie n'est pas traduisible. Et la poésie de Hölderlin spécialement est une poésie tellement précise, d'une articulation tellement minutieuse, qu'elle ne peut pas se reproduire dans une autre langue. Ce n'est pas possible. Alors, dans les traductions de Hölderlin, je ne retrouve rien de ce qui m'enchante et je suis désespéré. Et lorsque vous m'avez demandé de vous choisir quelques textes, c'est vraiment avec désespoir que je vous les ai communiqués, car je ne retrouve dans ces textes plus rien de ce que j'aime en Hölderlin.
Pas même dans une traduction de Tardieu, par exemple ?
Ton rivage a-t-il vu le retour des oiseaux voyageurs ? Et la voile, de nouveau, cherche-t-elle à s'enfuir sur tes bords ? Les souffles souhaités font-ils frémir ton flot, longtemps calme ? Et vois-tu se chauffer au soleil, le dos des dauphins attiré hors des fonds par la neuve lumière ? Est-ce l'heure où fleurit l'Ionie ? Est-il temps ? Ah, quand vient la saison où le cœur des vivants rajeunit, où l'amour retrouvé les réveille et les baigne à sa source première et rappelle et promet l'âge d'or, père archipel, me voici près de toi, saluant ton repos. Car tu vis, ô puissant, et toujours sans vieillir, tu reposes dans l'ombre de tes monts, comme alors, et toujours étreignant de tes bras de jeune homme la terre que tes vagues entourent, le pays ravissant de tes filles. Pas une île perdue, oh, pas une des fleurs de tes eaux n'est perdue. Crète est debout et Salamine a reverdi, et sous la lueur des lauriers, ornée d'une auréole de rayons, à l'heure où s'enflamme l'aurore, Délos élève son front inspiré. Et Ténos et Chios, regorgeant de fruits empourprés, et du haut de ses collines ivres, la boisson de Cypros ruisselle. Et sur les pentes de Caloria, comme alors, les ruisseaux argentés gagnent l'onde ancestrale du Père. Toutes sont là, les îles, les mers immortelles des héros. Les printemps successifs voient leurs fleurs. Mais au temps où du fond de l'abîme, la flamme de la nuit, l'ouragan souterrain déchaînant sa fureur, saisissait tout à coup l'une d'elles et jetait dans ton sein la mourante, tu restais patient et divin, car ta face impassible aura vu plus d'un monde apparaître et sombrer sur les gouffres remplis de ténèbres, et toujours les pouvoirs des hauteurs, les divins habitants de la nuit, dont la force paisible a jamais fait pleuvoir sur la tête des hommes, le suave sommeil et le jour transparent et la dure vengeance. Eux aussi, tes anciens compagnons, débordant d'éternelle puissance, près de toi, comme alors, sont restés. Et souvent, quand le soir se répand, quand du fond des montagnes d'Asie apparaît la lumière sacrée de la lune, et qu'au fil de tes flots, les reflets des étoiles se croisent, la lueur de tes eaux change et bouge à mesure que passent les clartés cheminantes du ciel. Et la voix de tes frères, là-haut, retentit, merveilleuse. Et leur chant redescend sur ton cœur plein d'amour.
Donc, théoriquement, on ne peut pas étudier la poésie de Hölderlin en français.
Il n'en est pas question. Pas question une seconde. C'est comme si vous vouliez étudier la sculpture grecque, par exemple, d'après les gravures aux traits que nous avions dans les manuels d'histoire de notre enfance. Vous comprenez, c'est absurde, ça ne tient pas.
Alors, quand vous étudiez Hölderlin dans la langue mère, en allemand, quelles sont les grandes caractéristiques qui vous paraissent se dégager ?
Eh bien, la poésie de Hölderlin nous a appris ce que c'est que la poésie. C'est-à-dire qu'elle n'existe que quand elle est dite, quand elle est parlée, quand elle est chantée. Et sa poésie nous rappelle que la poésie est incantation. Incantation, incantar. Il faut chanter la poésie de Hölderlin. Et à ce moment-là, elle commence à agir. C'est comme toutes les formules magiques, n'est-ce pas, une formule magique. Si on ne la dit pas, elle n'agit pas, il y a longtemps qu'on le sait. La poésie, c'est une formule magique. Elle agit, oui, à condition qu'on la dise, qu'on la chante avec une conviction, qu'on y associe tout son être, ses rythmes intérieurs, ses rythmes respiratoires, ses rythmes musculaires, le rythme des images qu'on évoque. C'est cela qui se réunit dans l'acte poétique. Et la poésie n'est jamais un poème, ça n'est jamais qu'une occasion de restituer l'être poétique.
Si je considère la poésie d'Hölderlin, je peux au moins, indépendamment du fait que l'on peut la dire, je peux au moins en examiner l'organisation.
Oui.
Alors, sur le plan de l'organisation, et je ne dis pas que l'organisation va restituer la poésie tout entière. Mais encore faudrait-il savoir jusqu'où on pousserait la notion d'organisation, car si on la poussait très loin, peut-être tout viendrait-il, mais je réserve cette question pour l'instant.
C'est une excellente façon de poser le problème. Car Hölderlin, qu'on a considéré comme un poète romantique, qu'on se représente, se répandant en épanchements lyriques incontrôlés, un poète fou, insensé, en fait est un organisateur, c'est un constructeur, un bâtisseur, c'est un architecte, un horloger. Prenez par exemple son poème « Patmos », que l'on considère précisément qu'une espèce d'hymne... insensé, à la limite de l'insensé. Patmos est un poème de 226 vers. Ces 226 vers, la moitié de ces 113, c'est le 114e vers qui contient en trois mots la notion essentielle du poème. Et à partir de ce vers central, considéré comme, si vous voulez, un axe de symétrie, vous retrouvez dans les vers qui se correspondent, par exemple 113 et 116, vous trouvez les mêmes images contrastées. Tout le poème de Hölderlin a été calculé au vers près. Il y a même une chose plus extraordinaire. Un autre poème de Hölderlin, Brot und Wein, est un poème composé, en somme, autour du nombre 3. Il y a 9 strophes par groupe de 3. Chaque strophe est composée de 3 fois 3 groupes de 2 vers, ce qui fait 3 fois 3, 9, multiplié par 2, 18. Tout cela est d'une structure absolument rigoureuse. Et tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a une strophe qui, au lieu d'avoir 18 vers, n'en a que 17. Et dans Patmos, qui a 226 vers avec cette symétrie extraordinaire, on s'aperçoit qu'il y a un vers de trop quelque part. Et alors on dit, bon, il ne s'est pas rendu compte, il ne s'est pas aperçu. En fait, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que Hölderlin, qui cherchait la perfection, savait qu'on doit, comme les architectes des cathédrales, laisser quelque part un petit défaut. Une petite asymétrie qui oppose le vivant au cristal. De sorte que ces erreurs même, dans une symétrie extraordinairement compliquée, sont probablement voulues. Parce que voilà ce que c'est qu'un poème de Hölderlin. C'est pas du tout un épanchement, le type qui chante comme un oiseau sur sa branche. C'est une structure extraordinairement complexe, extraordinairement compliquée, avec des raffinements même de dissymétrie. Alors tout ça, ça ne peut évidemment pas se rendre dans la traduction française, pour commencer.
Mais est-ce que
les traducteurs ne s'en sont pas rendus compte du tout.
Est-ce que ces études ont été faites?
On est en train de les faire. Ce que je vous dis pour Patmos, on s'en est aperçu il y a 2 ans. On s'est aperçu qu'il y avait probablement une sorte de presque de mystique des nombres. D'ailleurs, chez Hölderlin, qui remonte probablement une tradition piétiste. Alors tout d'un coup, on s'aperçoit que ce poète qu'on croyait insensé, pas très conscient de ce qu'il faisait, non seulement était très conscient, mais était un calculateur. Et alors à ce moment-là, on comprend beaucoup mieux une attitude de Hölderlin dont on ne tenait pas compte jusqu'à présent. On a considéré Hölderlin comme un poète romantique. Il est le contraire du poète romantique. Hölderlin dit un poète, c'est un artisan. C'est un homme qui fabrique un outil, une construction, une structure, un objet, et cet objet doit être bien fabriqué. Il doit avoir du métier. Et dans un poète, Hölderlin n'apprécie que le métier. Son métier est tellement extraordinaire qu'on ne s'en est même jamais aperçu.
Oui, alors ça, c'est neuf, et nous allons enfin... On peut dire que je crois que la poésie d'Hölderlin est une poésie telle que l'examen d'Hölderlin va nous faire progresser dans la connaissance de la poésie.
Absolument. Pour moi, Hölderlin, justement, ma fréquentation de Hölderlin, je le fréquente depuis 40 ans, je m'y consacre depuis 40 ans. Hölderlin, c'est vraiment le poète qui nous apprend ce que c'est que la poésie. Et qui nous apprend, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, que la poésie, c'est intraduisible. On ne peut pas transposer ça dans une autre langue.
Bon, alors, nous allons pouvoir faire un schéma avec Patmos, par exemple. Et Patmos, oui. Tout à l'heure, nous le ferons entendre en entier, parce que je crois qu'il est tout à fait indispensable de le faire entendre, après en avoir parlé longtemps. Alors, supposons que nous fassions... Alors là, je réserve la question de la langue. Nous oublions que nous parlons en ce moment la langue française et que le poème est écrit en allemand. Et nous examinons l'œuvre. Nous construisons un schéma et des études se poursuivent en ce sens. Jusqu'où pensez-vous que l'on pourra poursuivre les études de structure et à supposer que l'on puisse épuiser l'étude de structure? Et je ne suis pas tout à fait sûr que lorsque je dis épuiser l'étude de structure, je propose une notion recevable. Je n'en suis pas certain. Admettons une seconde. Alors, si je pouvais épuiser mon étude de structure, est-ce que j'aurai le tout du poème ou non?
On n'a jamais le tout du poème. De même que quand vous aurez épuisé la structure d'un être vivant, eh bien, quand vous connaîtrez où sont toutes ces molécules, vous ne saurez encore pas ce que c'est que cet être vivant. C'est autre chose.
Tout proche. Est difficile à saisir, le Dieu. Mais au lieu du péril, croit aussi ce qui sauve. Dans la ténèbre nichent les aigles, et sans frémir, les fils des Alpes sur des ponts légers passent l'abîme. Ainsi, puisqu'autour de nous s'amoncellent dressées les montagnes du temps, et que les bien-aimés vivent là, tout proches, languissant de solitude sur les cimes séparées, ouvre-nous l'étendue des eaux vierges. Ah, fais-nous don des ailes, que nous passions là-bas, cœur fidèle, et fassions ici retour. Ainsi priai-je. Un génie, alors, rapide au-delà de mon attente, et si loin que jamais je n'eusse rêvé même d'y parvenir, hors de ma demeure m'emporta. Dans le crépuscule d'aube, sous notre vol, naissaient les forêts chargées d'ombre et les nostalgiques rivières de ma patrie. Puis vinrent les terres inconnues, mais bientôt, éclatantes et fraîches, mystérieuses, dans une buée d'or, à chaque pas du soleil plus immense, dans le parfum de 1000 cimes embaumées, tu t'ouvris à moi comme une fleur. Assis. Et les yeux éblouis, je cherchais un lieu que je connusse, car ces larges avenues m'étaient choses nouvelles, par où descend Dutmolus, le pactole tout paré d'or, où se dressent le taurus et le mésogis, où, gorgé de fleurs, le jardin flamboie. Un calme feu. Mais là-haut, dans la lumière, fleurit la neige d'argent et témoin d'une immortelle vie, un lierre sans âge, aux parois des rocs, inaccessible rampe. Et sur les cèdres et les lauriers, vivantes colonnes, les palais triomphants reposent, que les dieux mêmes ont bâtis. Et bruissant autour des portes de l'Asie, s'allonge et se disperse dans l'incertaine plaine marine la profusion des routes sans ombre. Mais le marin sait les îles, et quand j'eus nouvelle que l'une parmi les proches était Patmos, le désir me saisit d'y descendre et de tenter là-bas l'approche de la grotte obscure. Car Patmos n'habite point, comme Chypre la riche en sources ou quelqu'une des autres îles, la mer avec faste. Mais dans une demeure plus pauvre, elle est pourtant pleine d'accueil. Et quand, jetée d'un naufrage ou pleurant sa terre natale, ou l'étreinte d'un ami perdu, quelque étranger l'aborde, elle se fait pitoyable à sa plainte. Et ses enfants les voient dans le brûlant bocage et dans les lieux où choit le sable, où se fend l'écorce des terres, les sons lui font audience, et tout un tendre écho répond au désespoir de l'homme. Telle jadis, elle prit soin de l'aimé du Dieu, du voyant dont la jeunesse bienheureuse avait suivi, compagne inséparable, le Fils du Très-Haut, car le porteur d'orage aimait la simplesse du disciple, et les prunelles attentives de l'homme contemplèrent tout proche le visage du Dieu quand s'accomplit le mystère du cep. Et tous ensemble, ils étaient assis à l'heure de la scène. Et le Seigneur, sa grande âme pleine d'une calme prescience, leur dit sa mort et son suprême amour, car jamais ses lèvres n'étaient lasses de miséricordieuses paroles, et il n'avait cesse de ramener à la joie le monde sous ses yeux saisi par la fureur, car tout est bien. Puis il mourut. Que de choses là-dessus seraient à dire. Et ses amis le virent encore des cimes de la joie leur jeter le regard suprême d'un vainqueur. Ils sentirent pourtant descendre le soir étant venu, la tristesse en eux et le trouble, car ces hommes portaient le poids en leur âme d'un grand avènement. Mais la vie sous le soleil leur était douce. Ils ne voulaient point quitter le visage du Seigneur, ni leur patrie. Cet amour, jusqu'à leur être même, tel le feu dans le fer, s'était fait voix et l'ombre de l'ami marchait à leur côté. Alors il fit sur eux descendre l'esprit, et la demeure en vérité fut ébranlée, et les orages de Dieu grondèrent, tonnèrent au loin sur les têtes pressentantes, à l'heure où les héros de la mort se tenaient là tous ensemble, le cœur lourd. À cette heure où, leur disant adieu, il leur apparut une fois encore, alors le jour du soleil devint ténèbre, le jour royal, et saisi d'une douleur divine, de lui-même il brisa son sceptre au rigide rayon de flamme pour qu'au temps propice tout fît retour. Car la vie ne fut point demeurée bonne. Et dans l'infidélité, l'œuvre des hommes brusquement se fut rompue. Et c'était comme une joie désormais d'habiter la douce nuit aimante et de maintenir au miroir naïf des regards purs, introublés, les abîmes de la sagesse. Et de vivantes images verdoient aussi aux pentes profondes des montagnes. Mais ces choses terribles, cette manière qu'a Dieu, sans trêve, de disperser au loin ceux qui reçurent le vivant d'amour. Oui, quitter déjà le visage des amis bien-aimés et par-delà les lointaines montagnes, s'en aller solitaire, où les disciples par deux fois et d'un seul cœur avaient reconnu la venue de l'Esprit divin. Et nulle prophétie n'en avait fait annonce. Mais une brusque présence les saisit aux boucles, quand le Dieu qui s'éloignait rapide, se retournant soudain, les regarda, et que, nommant le mal, nouant la chaîne de leurs mains tendues, ils le conjurèrent de le tenir lié pour toujours, comme par des cordages d'or. Mais quand la mort saisit l'être en qui la beauté suprême avait élu demeure, jusqu'à faire de son corps cette merveille par le doigt même des dieux désignés, et quand, énigme désormais les uns aux autres, ceux qui vivaient ensemble dans le souvenir ne peuvent plus se saisir, et que ce ne sont point les sables seulement ou les saules que le temps emporte, ni les temples seuls qui l'assaillent. Quand la gloire du demi-dieu et des siens s'efface, quand le Très-Haut lui-même détourne son visage et que le regard en vain dans les cieux cherche un immortel, ou sur la terre verdoyante, ah, qu'est-ce donc ? C'est le geste du semeur, quand il puise avec la pelle le froment et le lance et l'épure au battement du vent sur l'air. La balle en pluie à ses pieds tombe, mais au terme de sa peine, voici le grain. Et ce n'est point chose grave si quelque part s'en perd, et si de la parole expire peu à peu le vivant écho, car l'œuvre divine est à la semblance de la nôtre, tout à la fois. Telle n'est point l'exigence du Très-Haut. La mine, au profond de ses puits, recèle le fer et l'Etna, son épaisse bois brûlante. Oui, et de cette richesse en moi, j'aurai pouvoir de nourrir du Christ une image fidèle et de le contempler tel qu'il fut. Mais si quelqu'un, créant lui-même sa ferveur, me parlait en chemin d'une voix triste, et me sachant sans défense, me dépouillait soudain par surprise, et que cette image de Dieu pût être imitée par un valet. Au fort de leur fureur, jadis m'apparurent les seigneurs du ciel. Non que je dusse être rien, mais comme une leçon. Ils sont cléments, mais une chose par-dessus tout, tant qu'ils règnent, leur fait horreur. Ce factice, par quoi l'humain va perdant toute valeur parmi les hommes. Ils ne gouvernent plus. Alors, la destinée des immortels détient l'empire, et leur œuvre d'elle-même change de voie et se précipite vers sa fin. Et voici, quand monte la marche triomphale et divine, les vaillants nomment à l'égal du soleil l'exultant fils du Très-Haut. Un signal qui rassemble. Et la baguette ici retombe avec le chant. Car rien ne peut être divulgué. Ceux d'entre les morts que l'informe ne saisit point encore, il les éveille. Mais il est nombre d'yeux, attendant de contempler, timide, la lumière. Et nul désir ne les presse de fleurir au vif d'un rayon, bien que le trait d'or tienne haut leur courage. Mais lorsque dans l'oubli du monde, et comme issue d'une ferveur de sourcils froncés. La clarté silencieuse d'une force tombe de l'écriture sacrée. Ils peuvent, dans l'allégresse de la grâce, exercer leur calme regard. Et si les maîtres du ciel, à cette heure même, ainsi que je le crois, combien plus encore ne te chérissent-ils point? Car il y a ceci que je sais, le gré du Père éternel est pour toi chose du plus grand prix. Silencieux, au tonnant ciel d'orage, brille son signe, et quelqu'un sous le ciel est là, debout, pour tout son temps de vie, car le Christ vit encore. Mais les héros, les fils du Père, sont tous apparus, et les saintes Écritures en témoignage. Et la suite, jusqu'aujourd'hui, des actes sur la terre, en leur course rivale, irrépressible, traduit l'éclair. Mais le Christ est là. Car les œuvres du Père, depuis l'aube des temps, lui sont connues. Ah, depuis trop longtemps déjà, la gloire des dieux n'apparaît plus, car force leur est presque de nous conduire la main. Et c'est par la violence aux hontes que notre cœur nous est ravi. Car il n'en est point parmi eux qui n'exige son sacrifice, et l'oubli, fût-ce d'un seul, jamais n'eût suite heureuse. Nous avons vénéré la terre, notre mère, et voici peu la lumière du soleil, ne sachant point, mais le Père aime le maître du monde avant toute chose, que la lettre, en sa fermeté, soit maintenue avec soin, que de ce qui perdure soit rendu visible le sens profond. Et le chant allemand lui obéit.
Vous avez dit tout à l'heure que dans Patmos, il y avait un vers de trop qui servait de plan de symétrie. Vous n'avez pas dit plan de symétrie d'ailleurs.
Ce n'est pas le vers de trop qui sert de plan de symétrie. Pour retrouver le plan de symétrie, il a fallu s'apercevoir qu'il y avait un vers de trop et l'éliminer et reconstituer le plan de symétrie.
Alors, où l'a-t-on placé?
Au vers 113. Entre le vers 113 et le vers 114.
Entre le vers 113 et le vers 114.
Ah, oui.
Parce qu'on avait affaire à 226 vers.
Ah, oui.
Alors, est-ce qu'il y a des cas où le plan de symétrie se place différemment dans d'autres poèmes?
Ah bien, dans chaque poème, enfin dans les poèmes où on est arrivé à faire cette analyse, on trouve en effet ou un plan de symétrie ou un principe de symétrie, On trouve un principe de structure. Alors, on le reconstitue pour certains poèmes, pour d'autres, on n'en est pas encore là, on y arrivera peut-être, mais on ne sait pas. On cherche. C'est comme, vous savez, les études qu'on fait sur le plan des cathédrales ou même sur le plan des pyramides. On n'a pas fini d'étudier et de gloser sur le plan des pyramides et sur les principes de symétrie des pyramides. Sur les poèmes de Hölderlin, c'est exactement la même chose. On n'a pas fini. Pendant 2000 ans encore, on va gloser là-dessus.
Bon, est-ce qu'on s'est soucié de localiser dans le temps les périodes qui sont telles que, pendant ces périodes, les textes sont parfaitement structurés? Il serait intéressant de reprendre, en poursuivant les études, de reprendre toute l'œuvre d'Hölderlin, toute son œuvre poétique, et quand je dis son œuvre poétique, cela comprend une grande partie de sa prose.
Oui, bien sûr.
N'est-ce pas, de reprendre
on ne peut pas distinguer
toute l'œuvre poétique d'Hölderlin, et d'assister à la naissance de ces structures, à leur épanouissement, et éventuellement à leur évanouissement.
Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que Hölderlin, au départ, avait une notion, disons, artisanale de la poésie, comme Pindare avait une notion artisanale de la poésie, comme Phidias, comme les sculpteurs, comme les architectes du Parthénon. C'était des artisans, c'était pas des artistes. Il ne faisait pas de l'esthétique. Il fabriquait un truc qui était bien fait. Et il disait, nous, on connaît notre métier, on sait, on connaît les mesures, on a le compas dans l'œil, ils avaient le compas dans l'œil. Et ils avaient une espèce de sûreté de geste, qui est ce que Hölderlin très explicitement, expressément admire chez les Grecs. Cette sûreté du geste, des gens qui savent ce qu'ils font. Et s'il y a un mot, et tel mot, ici et non pas là, et si tels et tels mots se trouvent dans tel et tel ordre, et non pas dans un ordre inverse, il y a une raison. Il y a une raison, mais c'est son oreille qui l'entend, c'est son métier poétique qui lui dit, voilà, ça c'est juste et le reste c'est faux. Reconstituer ça.
Oui, mais là, au fond, quand nous disons le métier poétique, ça c'est juste et ça c'est faux, nous parlons tout de même dans un certain état d'ignorance de cause. Pourquoi cette justesse? Cette justice? Pourquoi cette fausseté? On peut chercher.
Eh bien, écoutez, le parallèle est très proche. Depuis le temps que nous parlons de Jean-Sébastien Bach et que nous essayons d'expliquer le pourquoi, de comprendre, pas d'expliquer, mais de comprendre, ce qui n'est pas la même chose, de comprendre le pourquoi. Pourquoi Jean-Sébastien Bach composait-il comme ça au fur et à mesure, avec cette espèce de sûreté, d'extraordinaire précision? Pourquoi? Nous le comprenons après coup. Mais son geste, vous savez qu'on ne comprend même pas encore exactement le geste des oiseaux qui volent. Pourtant, on fait beaucoup d'aérodynamique depuis très longtemps. Et on n'a pas encore compris. Et l'oiseau, il était en ses ailes, puis il dit, vous voyez, je vole. C'est très simple, je vole. Et nous ne sommes pas capables d'en faire autant, même avec nos machines. On n'a pas encore reconstitué l'aérodynamique d'une aile d'oiseau. Mais c'est exactement la même chose. Comment voulez-vous qu'on reconstitue l'aérodynamique, si vous voulez, ou la dynamique de la création du poème par Hölderlin?
Nous pouvons comprendre. Oui, mais c'est parce qu'il y a un oiseau qu'on étudie l'aile.
Oui, bien sûr, mais il faut étudier sa poésie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'étudier, il faut l'étudier, mais se dire que, sans doute, on n'arrivera jamais à comprendre intégralement. C'est ça qui est extraordinaire dans cette sûreté de geste ou du grand sportif, n'est-ce pas? Le grand champion, le champion de billard, ou le joueur d'échecs, il réussit là où les autres ne réussissent pas. Pourquoi? Une espèce de sûreté du geste, vous avez vu Pelé rentrer un but l'autre jour, ben c'est exactement ça. C'est exactement ça.
Dans le cas du champion d'échecs, je crois qu'on pourrait donner une démonstration mathématique. Et de toute manière, dans le cas de l'échec, il y a ce que l'on appelle le coup juste, et le coup juste résulte bien d'une analyse logique et d'une analyse mathématique. Alors là, on ne peut peut-être pas comparer.
Je ne suis pas sûr du tout, car je pense, c'est ce que me disait Valérie, qui disait tout de même que la beauté esthétique est probablement la perception directe de rapports de nombres. Cette perception directe, elle n'est pas un calcul. Elle n'est pas de l'ordre du calcul. Elle est de l'ordre d'une certaine forme de sensibilité que tout le monde n'a pas.
Et que le calcul ne pourrait pas retrouver?
Oh, est-ce que vous croyez que jamais on a expliqué comment Inaudi calculait? Je ne crois pas. Je crois que c'est quelque chose d'assez monstrueux. Comment les calculateurs, qui sont de piètres mathématiciens, d'ailleurs, c'est pas des mathématiciens, le calculateur, comment il vous extrait une racine carrée comme ça en 3 secondes?
En général, on sait comment ils font. Ils donnent leurs recettes, je pense.
Oui, mais personne n'est capable de les imiter. Mais Hölderlin aussi, il dit, mais mon geste, c'est le plus simple. Il donne ses recettes. Il les donne. Mais on n'est pas capable de s'en servir. D'ailleurs, c'est les grands cuisiniers. Si vous allez trouver les grands cuisiniers, que vous leur demandez leur recette, alors ils vous la donnent. Et puis c'est pas pareil. Parce qu'il y a un petit quelque chose là. Le génie.
Non, vous pensez donc que dans le domaine des arts en général, je crois, on n'épuise pas?
Ah, on n'épuise jamais. Jamais. Si on épuisait, on pourrait refabriquer autant qu'on voudrait. Vous pourriez fabriquer du Bach. Vous n'êtes jamais demandé comment se fait-il? On sait comment. On a analysé Bach, on a analysé Mozart. Beethoven, je le laisse de côté. Mais Mozart, bon. On devrait pouvoir fabriquer du Mozart.
Mais on commence?
Bah oui. Je n'en ai pas encore entendu satisfaisant, mais enfin, j'attends peut-être. Je doute un peu. Je doute, mais après tout, pourquoi pas?
En bleu adorable fleurit le toit de métal du clocher. Alentour plane un gris d'hirondelle. Autour s'étend le bleu le plus touchant. Le soleil au-dessus va très haut et colore la tôle. Mais silencieuse, là-haut, dans le vent, crie la girouette. Quand quelqu'un descend au-dessous de la cloche, les marches, alors le silence est vie. Car lorsque le corps à tel point se détache, une figure sitôt ressort de l'homme. Les fenêtres d'où tintent les cloches sont comme des portes par vertu de leur beauté. Oui, les portes encore étant de la nature, elles sont à l'image des arbres de la forêt. Mais la pureté est, elle, beauté aussi. Du départ, au-dedans, naît un esprit sévère. Si simples sont les images, si saintes, que parfois on a peur, en vérité, elle, ici, de les décrire. Mais les célestes, qui sont toujours bons, du tout comme riches, ont-elles retenu, et la joie. L'homme en cela peut les imiter. Un homme, quand la vie n'est que fatigue, un homme peut-il regarder en haut et dire « Tel aussi voudrais-je être ?» Oui. Tant que dans son cœur dure la bienveillance, toujours pure, l'homme peut avec le divin se mesurer, non sans bonheur. Dieu est-il inconnu ? Est-il comme le ciel évident ? Je le croirais plutôt. Telle est la mesure de l'homme, riche en mérite, mais poétiquement toujours sur terre habite l'homme. Mais l'ombre de la nuit avec les étoiles n'est pas plus pure, si j'ose le dire, que l'homme, qu'il faut appeler une image de Dieu. Est-il sur la terre une mesure ? Il n'en est aucune. Jamais monde du Créateur n'a suspendu le cours du tonnerre. Elle-même, une fleur est belle parce qu'elle fleurit sous le soleil. Souvent, l'œil trouve en cette vie des créatures qu'il serait plus beau de nommer encore que les fleurs. Oh, comme je le sais. Car à saigner de son corps et au cœur même, de n'être plus entier, Dieu a-t-il plaisir ?
Est-ce que nous pourrons faire coïncider la perte des pouvoirs d'Hölderlin, la perte des pouvoirs intellectuels, avec la destruction des organisations ?
N'est-ce pas ?
Est-ce que nous pourrions suivre ? Est-ce que l'analyse que l'on fait actuellement de ses œuvres permet d'établir deux courbes plus ou moins parallèles ?
J'ai à ce sujet une position très hérétique. Je pense que Hölderlin n'était absolument pas fou jusqu'au jour où il a eu vraiment la crise, la grande crise, mais que jusque-là, il était parfaitement conscient et en pleine possession de ses moyens, et je ne vois aucun signe de déchéance du talent poétique, je dis pas du génie, c'est autre chose, du talent poétique, de son don de fabrication.
Alors, jusqu'à quelle date ?
Jusqu'au jour où il a cru qu'il était arrêté, où il a piqué une crise et où il est devenu fou. À ce moment-là, c'est l'effondrement total.
Mais justement, en 1806, n'est-ce pas ?
Exactement. Mais jusque-là, alors que les gens peut-être le disaient, oh, il n'est pas très bien de la tête. Jusque-là, peut-être dans ses propos, y avait-il certaines bizarreries, mais dans ce qu'il écrit, absolument rien. Ce qu'il écrit, d'ailleurs, même ceux qui le fréquentaient après, dans sa folie, je ne nie pas, il a eu une période, après 1806, il est fou. Il écrivait des vers et quelqu'un disait, c'est tout de même extraordinaire. Quand il parle, bon, ce sont des propos d'un insensé. Quand il écrit une lettre à sa mère, ses lettres à sa mère aussi sont pas très... Ça tient pas debout. Quand il écrit un vers, ça tient debout. Ah, il n'y a pas un seul de ses vers
qui ne
veuille rien dire. C'est tout de même extraordinaire.
J'ai envie de formuler les choses un peu différemment. Je dirais qu'il écrit des lettres à sa mère, ou à son frère, ou à certains de ses amis, où le schizophrène apparaît nettement.
Ah oui.
La planche, n'est-ce pas, l'a bien mis en évidence.
La planche a parfaitement raison.
Mais, aux mêmes périodes, nous avons affaire à un homme qui, dans ses lettres, montre qu'il ne peut communiquer, et qui, dans sa poésie, montre, qui, par sa poésie, montre qu'il communique.
Oui, là,
alors
il y a
ça,
une...
je suis frappé par cette concomitance.
Vous avez raison, vous avez raison.
La lettre, c'est « je ne peux pas communiquer », et dans la lettre, le ciel est de fer.
Oui.
Mais dans la poésie, alors le contact est pleinement établi, au contraire, avec la nature. Ce alors, contact qui est rompu dans l'ordre du raisonnement, dans l'ordre poétique, là, je vais amener à me ranger un peu à vos côtés.
Non, mais absolument d'accord.
Il est établi, ce contact.
Absolument d'accord, n'est-ce pas? Tout ce qu'il écrit et tous ses propos et toutes ses attitudes, à partir de 1806, relève de la psychiatrie. Il n'y a pas de doute. Sauf sa poésie qui continue à être cohérente, pauvre, appauvrie certainement sur beaucoup. Il revient comme un paralytique qui s'accroche à la rampe. Il revient à la rime, il revient au vers régulier. Il revient à des thèmes extraordinairement simples comme les saisons, l'hiver, le printemps, mais toute sa poésie a une cohérence, et c'est ça le miracle poétique, une cohérence par elle-même. Il n'y a plus en lui de cohérence, il n'y a plus de cohérence que comme extérieur à lui, dans son extériorisation poétique. C'est encore un des miracles de la poésie.
Le printemps. Heureuse est l'âme de revoir poindre ses heures, où l'homme content donne un regard aux campagnes. Les gens se demandaient comment ils vont. Les gens s'ouvrirent au plaisir de la vie. Comme le ciel se voûte et vaste se déploie, telle est alors la joie à l'air libre des plaines. Lorsque le cœur aspire à quelque vie nouvelle, les oiseaux chantent, changent leur cri en chant. L'homme, qui s'est souvent interrogé jusqu'au fond, parle alors de la vie d'où la parole vient. Si le chagrin ne lui ronge pas l'âme, et si, viril, joyeux, il veille sur ses biens. Qu'une demeure resplendisse, bâtie dans le vent haut, l'homme a le champ plus vaste, et des chemins sont loin, dehors, où le regard peut voir autour de soi, et bien bâtis les ponceaux franchissent le torrent.
L'été. Puis, quand les fleurs du printemps disparaissent, voici l'été qui s'enroule à l'année. Et comme le ruisseau glisse au vallon et coule, la montagne étale sa splendeur alentour. Avec plus de splendeur s'y se montre le champ, c'est comme le jour qui penche vers le soir. Qu'ainsi l'année s'attarde, et souvent les heures d'été, les tableaux de nature ont disparu pour l'homme.
L'automne. Ces légendes qui s'éloignent de notre terre, de l'esprit qui fut et qui s'en revient, elles se tournent vers les hommes. Et le temps si vite consumé nous apprend maintes choses. La nature garde en mémoire les images du passé mort. Et quand pâlissent les journées d'arrière-été, l'automne alors descend sur terre, et l'esprit des voyants hante à nouveau le ciel. En peu de temps, beaucoup de choses ont pris fin. Le paysan qu'on aperçoit à la charrue, vers sa joyeuse fin, voit se pencher l'année. Le jour humain s'achève en de telles images. L'orbe des terres et ses roches en décor n'est pas comme la nuit au soir qui va s'éteindre. Le voici qui paraît dans l'éclat d'un jour d'or. Et la perfection règne sans une plainte.
L'hiver. Quand s'est perdu le feuillage au loin dans les plaines, c'est alors que tombe le blanc sur les vallées. Mais le jour resplendit d'un haut rayon solaire. Sortant des villes, la fête aux portes resplendit. C'est le repos de la nature, le silence des champs. Semble le règne humain de l'esprit. Et plus hautes se montrent les différences, tellement que la nature sa haute image montre, et non plus sa douceur de printemps.
Quand vous parlez de degré de cohérence, je suis toujours étonné que les psychiatres ne paraissent pas soucieux de mesurer le degré de cohérence intérieure d'un schizophrène. Mais si j'étais psychiatre, c'est la première chose que je voudrais essayer de toucher. Il est impossible que cette cohérence soit complètement détruite Et si nous nous trouvions en présence d'une cohérence différente, et qui serait une cohérence poétique, pourquoi pas? On n'envisage pas cette hypothèse, mais elle me paraît tout de même digne d'être proposée.
Ne me faites pas parler des psychiatres, je ne crois pas aux psychiatres. Enfin, c'est un métier très amusant, c'est même très passionnant. Seulement, j'en ai très peur, car ils trouvent... Dans la cohérence, ils trouvent l'incohérence. Dans l'incohérence, ils trouvent la cohérence. Leur notion de la cohérence n'est pas du tout la nôtre.
J'ai un autre reproche à leur faire. On sait que Hölderlin a eu un goût très vif pour la permutation circulaire. Et quand il examinait les genres poétiques et les qualificatifs que l'on pouvait appliquer aux genres poétiques, il a donné des suites épiques, tragiques, etc., auxquelles il a collé des qualifications naïfs, réelles. Et malheureusement, à la radio, ce n'est pas une chose que l'on peut rendre sensible. On pourra la rendre sensible dans l'espace, ou si on voulait la rendre sensible avec la temporalité de la radio, alors il faudrait disposer d'un nombre de voix extrêmement élevé. Mais toujours est-il que, pour caractériser les genres poétiques, Hölderlin en vient à considérer des permutations circulaires simples. J'ai constaté que la permutation circulaire, pour les psychiatres, apparaissait comme un signe en soi de schizophrénie. Vais-je dire que les mathématiciens qui se pensent sur la permutation circulaire sont schizophrènes? C'est une plaisanterie pure, n'est-ce pas?
Mais nous y sommes, vous avez très bien posé le problème. Supposez que derrière les tentatives de Hölderlin pour faire une théorie de la poétique, supposez qu'il y ait une idée très simple, qu'il regrette qu'il n'y ait pas pour la poétique ce qu'il y a pour la musique, c'est-à-dire un art de l'harmonie et du contrepoint. On sait quels sont les sons qui vont ensemble, quelles sont les permutations possibles, etc. Bon. Supposez que Hölderlin ait tout simplement dit, il faut qu'il y ait une harmonie, une théorie de l'harmonie, une théorie du contrepoint en poétique. C'est une idée qui n'est pas folle. À moins qu'on ne dise que l'idée d'inventer une harmonie et un contrepoint en musique est une idée de schizophrène, ça c'est aussi possible. C'est pour ça que j'ai peur des psychiatres, parce que ils vont me démontrer dans 5 minutes que je ne suis pas très cohérent et que je relève...
Et une muraille ne m'effraie pas en soi.
Oui.
Montrez la muraille et dites ce qu'on en fait. Il y a 100 façons de l'utiliser, il n'y a pas que passer au travers, il n'y a pas que la volatiliser, il n'y a pas... que la faire disparaître, on peut l'intégrer aussi.
Mais voyez-vous, Hölderlin, et c'est ça qui nous... la difficulté que nous avons à le comprendre, est un homme extraordinairement simple, je l'ai dit et je le répète. Simplement, c'est nous qui sommes compliqués, et alors nous n'imaginons pas combien simples étaient ses idées, mais aussi discrètes et presque secrètes, par exemple. Il faudrait voir ce qu'il y a dans Kepler, qui était un de ses prédécesseurs au Stift, un grand ancêtre en quelque sorte au point de vue intellectuel. Mais Kepler a écrit des livres en latin Harmonices Mundi, où il fait un parallèle entre les orbites des planètes et les sons de la gamme et la musique. Eh bien, Hölderlin a probablement cherché à retrouver les traces de l'harmonie universelle dans les lois de la poétique et à reconstituer ces lois de la poétique qui doivent se présenter pour lui de façon aussi assurée, si on arrive à les découvrir, que des orbites planétaires. Kepler a été le premier à calculer les orbites de planètes et Hölderlin a pensé qu'il pourrait être le premier à calculer en quelque sorte l'orbite de l'image poétique.
Je disais tout à l'heure qu'il ne me semble pas qu'on puisse arrêter la notion de poésie en parlant d'Hölderlin à ce que traditionnellement on appelle sa poésie, et qu'il faut y inclure une partie de sa prose. Je précise tout de suite que c'est une affirmation très générale, que je ne la limite pas à Hölderlin du tout, mais cette affirmation très générale, je vous demande comment on peut l'appliquer à Hölderlin.
Eh bien, de façon très simple. Et pour Hölderlin, il y a la poésie, c'est-à-dire les vers, un poème... En vers, un poème, ça a tant de vers, un vers, ça a tant de syllabes, et ces syllabes s'articulent, les images s'articulent d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle en allemand « die gebundene Rede », c'est-à-dire le langage contraint, soumis à une loi. La prose, elle, il y a plusieurs espèces de prose. Il y a la prose que l'on écrit à ses amis dans les lettres. Et les lettres de Hölderlin sont admirables. Il n'y a pas une phrase qui ne soit frappée. Mais c'est un style extrêmement précis et, je dirais, informatif. Rien de vague, mais d'une extraordinaire précision. Et même ce qui rend ces lettres très difficiles à comprendre, c'est que chaque mot contient une information, une affirmation précise. Nous ne comprenons pas toujours, je peux vous en donner des exemples très curieux. Il y a cette prose, il y a la prose philosophique. Alors, la prose philosophique, Hölderlin s'y est un peu risqué, dans des conditions qui n'ont pas été très bien éclaircies. Ces essais philosophiques sont extrêmement difficiles à comprendre. Il y a des phrases de 2 pages qui sont parfaitement cohérentes, mais d'une complication qui n'apparaît pas nécessaire, indispensable. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait trop rien. Je suis persuadé, quant à moi...
Sur la définition du genre poétique, on pourrait construire des schémas très complexes.
Bien sûr, naturellement. Alors, je pense qu'il a, à un moment donné, voulu songer à rivaliser avec Schelling et Hegel, ses camarades d'école, en quelque sorte, et qu'il s'est essayé à un certain genre de style, mais je ne pense pas qu'il ait jamais eu l'intention de publier ses textes philosophiques tels que. Ce sont pour lui des exercices, des gammes. Et puis, alors, il y a la prose lyrique. Alors, la prose lyrique du roman Hyperion, ça, c'est totalement différent. Elle est poésie, tout en ayant une phrase, elle n'est pas coupée en vers, mais le rythme de la phrase en est un rythme poétique, le rythme des images est un rythme poétique, c'est-à-dire, disons-le toujours, extrêmement précis. Hölderlin sait, par exemple, quel est le dernier mot sur lequel va finir sa phrase. Et toute sa phrase est une espèce de méandre qui serpente pour arriver, ou comme un oiseau qui vient se poser. Avez-vous vu un oiseau se poser dans un grand vent, se poser sur une branche, cette extraordinaire précision? Eh bien, la phrase de Hölderlin va se poser exactement comme l'oiseau sur la branche, en un point très précis. Alors, elle est à la fois extrêmement précise et donne l'impression d'un épanchement que l'on croyait même incontrôlé. Mais quand on analyse les phrases d'Hyperion, et surtout quand on regarde les manuscrits, et qu'on voit avec quel soin il travaillait ses phrases, on s'aperçoit que non seulement il n'y a pas un mot qui ne soit délibérément voulu, mais que l'ordre des mots est d'une précision extraordinaire. Alors, pour donner une impression d'aisance, de facilité, de flow, qui a longtemps dissimulé l'extraordinaire métier qu'il y a derrière cette élocution, qui est poétique. Par conséquent, il y a là une prose dont on peut dire qu'elle est poétique.
Est-ce qu'en allemand, vous voyez les passages ou les liens entre la prose poétique et la poésie proprement dite? Est-ce que sur le plan du langage, on peut suivre les transformations?
Le lien est tellement étroit qu'il n'y a pas une phrase de Hölderlin. Je ne dis pas une phrase. En la lisant tout haut, si vous l'entendez, si vous avez l'oreille exercée, vous dites « c'est une phrase de Hölderlin ». Il n'y a pas une phrase qui n'ait un timbre de voix particulier. Et alors, on arrive à ceci d'extraordinaire, que dans des textes qui sont controversés, on ne sait pas si c'est lui, cet air copié de la main d'un de ses amis, etc., il y a une façon extrêmement simple de savoir si le texte est authentique ou pas. On le lit à haute voix et on sait. Ça, c'est une phrase de Hölderlin, ou ça, non, c'est pas de lui. C'est donc qu'il y a un timbre, une voix, comme le timbre d'une voix. Vous ne vous trompez pas au timbre de voix de quelqu'un. On ne se trompe pas au timbre de voix de Hölderlin, soit dans ses vers, soit dans sa prose, soit même dans ses lettres.
La poésie est le commencement et la fin de cette science. Comme Minerve de la tête de Jupiter, cette science est sortie de la poésie d'un être divin infini. De même, à la fin, ces incompatibles reviennent-ils converger dans la source mystérieuse de la poésie?
Voilà un homme paradoxal. Mais je devine ce qu'il veut dire. Toutefois, vous vous égarez. Nous parlions d'Athènes.
L'homme qui n'a pas senti en soi... une fois au moins dans sa vie, la plénitude de la pure beauté, quand les énergies de son être se mariaient comme les couleurs de l'arc d'iris, qui n'a jamais éprouvé que seules les heures d'enthousiasme révèlent le profond concert de toutes choses créées, Cet homme ne donnera même pas un douteur. Son esprit, manifestement peu doué pour bâtir, ne sera même pas capable de démolir. Car croyez-moi, le douteur ne déteste les défauts et les contradictions de chaque pensée que dans la mesure même où il connaît l'harmonie de la beauté sans défaut, qui ne peut être pensée. Et s'il méprise le pain sec que la raison humaine, pourtant bien intentionnée, lui offre, c'est qu'il festoie secrètement à la table des dieux.
Exalté. Voilà donc pourquoi tu doutais. Mais les Athéniens...
Mais je ne m'en suis pas éloigné. Seul un Grec pouvait inventer la grande parole d'Héraclite, l'un distinct en soi-même, car elle dit l'essence de la beauté, et avant qu'elle fût inventée, il n'y avait pas de philosophie. Le tout était là. On pouvait dès lors définir. La fleur s'était épanouie, on pouvait analyser. La beauté était advenue parmi les hommes, elle se manifestait dans la vie comme dans l'esprit, elle était l'entente infinie. On pouvait la décomposer, la dissocier en esprit, recomposer en pensée l'objet de cette dissociation. Ainsi allait-on acquérir une connaissance de plus en plus précise de l'essence du plus haut et du meilleur, et l'ériger ensuite en loi dans les multiples domaines de l'esprit. Comprenez-vous maintenant pourquoi les Athéniens, plus que quiconque, devaient être aussi un peuple philosophe ? L'Égyptien ne le pouvait pas. Qui n'aime pas le ciel et la terre, et qui n'est aimé d'eux ? Qui ignore l'accord avec l'élément dans lequel il vit ? Accord dispensé par ce mutuel amour ne peut être par nature en accord avec soi. Et s'il ressent la beauté éternelle, ce ne peut être en tout cas avec l'aisance des Grecs. Pareil à un tyran splendide, le climat oriental terrasse de sa puissance et de son éclat ses habitants. Là, avant même d'avoir appris à marcher, l'homme doit savoir s'agenouiller et prier avant de parler. Avant que son cœur n'ait trouvé son équilibre, il doit s'incliner, et avant que son esprit n'ait la force de porter des fleurs et des fruits, le destin et la nature lui retirent de leur feu toute énergie. L'Égyptien est assujetti avant d'être un tout. C'est pourquoi il ignore le tout et la beauté. Le Très-Haut qu'il nomme est une puissance voilée, une énigme terrible. Isis, sombre et muette, est son premier et son dernier mot, une infinité vide dont il n'est jamais rien sorti de raisonnable. Le plus sublime néant n'engendre encore que néant. Le Nord, en revanche, retourne trop tôt ses écoliers sur eux-mêmes. Et si l'esprit de l'Égyptien ardent, amoureux des voyages, s'empresse trop de courir le monde, celui des hommes du Nord se décide au retour en soi avant même d'être prêt à voyager. Dans le Nord, on doit être doué d'entendement avant même que d'avoir la maturité du sentiment, et l'on se sent responsable avant même que l'innocence n'ait atteint son beau terme. On doit être un esprit raisonnable et conscient avant d'être un homme, et un adulte intelligent avant d'avoir été un enfant. On ne laisse pas l'harmonie de l'homme total, la beauté s'épanouir et mûrir en lui avant qu'il ne se développe et ne se cultive. L'intellect pur et la raison pure sont toujours les maîtres du Nord. Or, l'intellect pur n'a jamais rien produit d'intelligent, ni la raison pure, rien de raisonnable.
Pensons à Empédocle. Comment allons-nous considérer Empédocle après avoir considéré la prose poétique, après avoir considéré la poésie proprement dite? Comment allons-nous considérer Empédocle tout d'abord sur le plan poétique? Et ensuite, est-ce que nous pourrons dire qu'Empédocle est Hölderlin?
On ne peut pas dire qu'Empédocle est Hölderlin, mais Empédocle pose le problème qui est le problème qui se pose à Hölderlin. D'abord, Empédocles, c'est de la poésie. C'est un très beau poème, un poème tragique avec une action dramatique qui était destiné à être représenté et qui peut être représenté, qui est très puissant, même dramatiquement, mais qui, évidemment, c'est de la poésie. Et sur le fond même du problème d'Empédocle, alors c'est tout à fait différent, le problème que Hölderlin pose, c'est le problème de l'homme, du grand homme en période de révolution. Que doit faire l'homme, qui est un homme, qui est un héros, si vous voulez, au sens hölderlien du terme, que peut-il faire en temps de révolution? C'est l'image même du problème des révolutionnaires, c'est contemporain de Danton, c'est contemporain de Robespierre, c'est contemporain de Saint-Just. Le problème qui se pose, que peut faire un homme lorsque les temps sont à l'arrêt lorsque l'époque est révolutionnaire. Est-ce qu'il peut agir? Est-ce que... Comment doit-il agir? Est-ce en entraînant les humains à créer un système politique nouveau? Ou est-ce peut-être, et c'est le cas d'Empédocle, simplement en se sacrifiant et pour que les gens réfléchissent et que peut-être beaucoup plus tard, ils reprennent une tradition qu'ils auront méprisée alors que l'homme était au milieu d'eux. Je ne sais pas si vous savez la théorie que Freud a faite de Moïse, que Moïse, ayant apporté au peuple juif auquel il n'appartenait pas, car il était égyptien, ayant apporté le monothéisme, les juifs qui l'avaient emmené dans le désert l'ont tué. Et ils l'ont tué, naturellement, bon, son expérience de son prosélytisme, sa prédication, si vous voulez, n'a pas eu de succès. Et puis très longtemps après, les juifs ont retrouvé ce monothéisme et ont réparé, en quelque sorte, l'assassinat du père. Eh bien, pour Hölderlin, à un moment donné, il se dit, bon, la révolution, on peut être, en effet, pour faire la révolution, on peut être Danton, peut-être Robespierre. Ça finit plutôt mal, et on n'est pas très sûr que ce soit ça qu'il faille faire. Il y a quelqu'un qui a fait une révolution, c'est Jésus. Ah, lui, il s'est sacrifié. Et il a fait un geste qui, quelques siècles ou quelques millénaires plus tard, mais ce seul geste a parlé pour lui. Alors, il y a des moments où le révolutionnaire doit se sacrifier, doit périr. Doit disparaître. C'est le thème d'Empédocle, c'est le thème du sacrifice. Eh bien, pour Hölderlin, c'était un problème très personnel. Car il s'est voué à la poésie, il s'est dévoué à la poésie, il s'est sacrifié à la poésie, il s'est sacrifié à son message poétique, très délibérément. Et c'était pour lui l'acte révolutionnaire, mais qui n'aurait sa portée qu'au bout d'un certain nombre de générations. Voilà, à mon avis, en quoi on peut identifier le problème d'Empédocle et le problème personnel de Hölderlin.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 25 mai 1970.